Et l'œil du tigre, mec, tu en voulais? Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque?
L'Empire.
Blasphème.
Le monde se divise en deux catégories.
Bah c'est quoi, Gigawatt?
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur.
Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé.
Allons-y, finissons-en.
Ouais, mais au moins, il faut que je sois au lit à 9h30.
Toi, tu creuses.
Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast de l'œil carnivore. Vous venez de découvrir le tout nouveau générique qui a été fait par Damien. Il va en parler dans quelques secondes, Damien.
Oui, ouais, générique.
La première production audio podcast.
C'est facile. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour faire un générique finalement pour l'émission.
Yep, parce qu'on tournait depuis un an avec le générique d'un autre podcast qui tourne aussi dans ce studio. Bon, c'est le 7e numéro, c'est le début de la nouvelle saison. Donc on est en septembre, le 18 précisément. Il y a des nouveautés, on va en parler plus tard en tout cas, au cours de la saison naturellement, pas aujourd'hui. On doit toujours être streamé un jour ou l'autre quand la connexion internet arrivera jusqu'ici, Underlake.
Ouais.
Je sais, il n'y a toujours pas. En tout cas voilà, on a déjà un nouveau générique, on va pas nous lancer la pierre et je vous propose de commencer tout de suite avec un petit tour peut-être de présentation parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. On est 1, 2, 3, 4, 5 dans le fauteuil, 6, 7 et 8 moi-même. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde autour de cette nouvelle table qu'on vient d'ailleurs de redesigner. On est passé une fois au studio pendant l'été pour ça. Alors Damien, petit tour général. Toi qui a un petit peu la main, qui a géré ce podcast, qui a produit ce podcast.
Ouais, difficilement, hein, parce que on tu parlais du générique, mais j'ai travaillé dessus deux soirs de suite et encore deux heures à chaque fois pour essayer de faire quelque chose. Mais bon, voilà, au moins, je me suis bien marré et je crois que j'ai fait rigoler un peu tout le monde. Bon, alors...
C'est éclaté, quoi.
Ou pas, d'ailleurs. Bon, alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de vampires et de petits lutins. Et pour être plus clair, je vais vous parler de l'éternel de Johann Sfar et des Pixies qui viennent de sortir un nouvel EP après
je connais pas.
22 ans.
Yep. Luc, à ta
oui.
gauche.
Oui. Oui, je suis là.
De quoi tu veux nous parler?
Je suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai avec moi les deux compères de la SBL de Retro Ludix pour nous parler de Retro Gaming.
Bienvenue les copains, bienvenue. Pierre et Justin.
Voilà.
Bonjour.
Voilà.
Donc ça va parler Retro Gaming. Ça va être cool.
Oui.
On se souvient d'un chroniqueur qu'on avait. Xport Talks, c'est la déco du studio. Donc on fera un petit get-up pour lui tout à l'heure. Alors Darby, vole le micro de Luc, voilà, parce qu'on n'a pas assez de micro.
Salut.
Tu es de retour aussi, comme d'hab.
Mais bien sûr, après les vacances.
Avec un sujet urbain, comme d'habitude.
Bien évidemment, aujourd'hui je vais vous parler du graffiti, de la rue à la lumière, comment le graffiti a évolué, on le retrouve un peu partout aujourd'hui. Donc okay. Voilà.
Tu nous feras la séquence avec un accent de racaille,
yes,
tout le long
yes,
du truc.
Yeah, man.
Tu feras le street art, tu voilà, parles en termes
voilà,
swag.
Voilà.
Et compagnie.
C'était connecté en tout cas.
Nouveau chroniqueur aussi autour de cette table.
Nouveau
récurrent.
Bon cul, ouais.
T'es récurrent, tu fais chier, tu viens squatter, mais voilà, maintenant t'es récurrent, t'es bien installé. C'est Matt.
Ouais.
Mathieu.
Et je vais vous parler de quoi, c'est ça?
Je sais pas.
C'est resté un sujet secret.
Il faut prévenir quand même qu'on a essayé de fixer quelques règles cette saison, d'être un peu plus court dans les séquences, hein, 15 minutes par chroniqueur, et c'est déjà un petit peu galère d'écrire en moins de 15
non,
minutes.
Non, pas du tout.
Donc on va voir si Matt tient son temps, en tout cas.
Mais aujourd'hui, on a
je fais la loi hein, ce soir.
Oui, tout d'abord, je veux bien croire. Non, aujourd'hui, je vais faire la chronique avec Sylph, en fait, qui est là, assis dans un fauteuil derrière moi.
Crie très fort, Sylph.
Qui a pas, vas-y, crie.
Ouais
ah, voilà. Et on va vous parler un petit peu de jeux vidéo, des actualités. Alors, Sylph avait envie de vous parler de Rome Total War.
Ouais.
2.
Ouais.
Je me trompe pas. Et de Rayman Legend, auquel il joue sur PC. Parce qu'il a décidé de prendre le côté difficile du jeu. Parce qu'il a choisi de jouer au clavier, donc c'est compliqué.
Bien.
Moi, je vais vous parler d'une actualité toute chaude qui vient de sortir à propos de Diablo 3. La suppression de l'hôtel des ventes de Diablo 3, c'est quand même une grosse, grosse nouvelle. Donc on y reviendra dessus en 5 minutes. Voilà.
Bien, et donc, à ta gauche, hein, nos deux compères de Retro Ludix, je vais y arriver, je connais pas encore, ça viendra ensuite. Bon, allez, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec un petit jingle, et puis on parle tout de suite Retro Gaming. Ouais, il était facile celui-là. Parce que j'en ai plein et j'ai pas encore eu le temps avec la nouvelle saison.
Il était pas si mal que ça.
Bon, Luc.
Oui.
c'est déjà un miracle que ça marche après deux mois passés enfermés ici. Hein. Bon, voilà. Alors, tu vas nous parler de rétro gaming avec tes invités. Donc, je te laisse libre cours. Je lance le chrono.
Oula. Hein,
nouvelle loi de ce podcast, 15 minutes. Et ils sont à toi.
Taper si jamais ça dépasse. Mais donc on va parler un peu de rétro gaming. Mais on va pas revenir sur les bases du rétro gaming. On n'est pas là pour ça. Et puis, on va pas vous prendre pour des crétins non plus. Tout le monde sait quand même plus ou moins.
Moi, je sais pas, c'est quoi.
Mais si tu sais, allez, vas-y, fille, maintenant. Allez, en gros, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah. Le rétro gaming, en gros, ça couvre, en tout cas, d'après ce que la majeure partie des gens en pensent, ça couvre une période d'une vingtaine d'années dans l'histoire principalement des jeux vidéo, ou en tout cas de tout ce qui est ludique. De 1970 à 1990,
wow,
on peut
précis.
Encore couvrir cette période-là en parlant de rétro gaming. Maintenant, je me trompe pas, je les regarde avec un air un peu indécis. Je dis...
Mais justement, ça fait débat.
Voilà. Mais... Donc justement, voilà, ça couvre un peu toute cette période-là. Maintenant, il y a beaucoup de détracteurs pour dire c'est un effet de mode. Le rétro gaming, c'est juste une manière de revendre à la sauce actuelle des trucs qui demandent un minimum de développement parce que ça fait juste joli d'avoir des gros pixels et un son cheap tunes. Il y a tout un débat et puis il y a surtout toute une culture derrière. Mm-hmm. Mais je suis plutôt mal placé pour en parler, quoique je suis relativement fan, mais ça touche aussi à l'affectif, ça touche aussi aux objets. Il y a des collections énormes qui peuvent se créer là-dessus, des choses que les gens ont parfois du mal à évaluer, peuvent se vendre très cher quand on parle aux gens qui sont vraiment... que ça touche vraiment. Mmh.
Donc pour parler aux incultes totaux, si on peut dire ça comme ça, comme moi, non, c'est pas vrai, si on a par exemple Super Mario 1 sur Super NES, c'est du rétro gaming. Si on a joué à Game Boy 1, vert et noir, c'est du rétro gaming.
Je pense qu'on peut dire ça, mais maintenant ça dépend de ce qu'on en fait avec.
D'accord. Eh bien justement, je te laisse enchaîner parce que je pense qu'on a quand même deux invités qui sont bien placés pour parler.
Parce qu'eux sont vraiment bien placés pour en parler, surtout qu'ils organisent des événements qui tournent autour du rétro gaming et ils ont eux-mêmes déjà une belle collection à leur actif et d'événements et de matériel, de jeux et... On va les laisser parler de ça parce qu'ils en parlent bien mieux que moi déjà.
Mais vas-y, pose-leur toutes tes questions.
Déjà, qui êtes-vous et que faites-vous pour l'instant? C'est quoi votre activité?
Voilà. En fait, tout quoi. Qui répond?
Et donc, on est, donc, comme tu l'as dit, une association. En fait, on est formé en ASBL. On existe depuis 2 ou 3 ans. Là, on est 2 des 5 actuels membres effectifs, on va dire. Et voilà, l'idée, c'est que ça fait nous plusieurs années qu'on collecte et qu'on rejoue à ces vieilles machines et à ces.
Mais j'ai vu dans votre dossier de presse, vous étiez actif depuis 2011 déjà.
Ouais,
ça date d'encore avant.
Non, c'est ça. C'est la création date de 2011. Ça a pris un peu de temps à mûrir. C'est un projet.
Oui, maintenant, ça fait évidemment des années. Des années qu'on collectionnait avant de lancer la SBL, donc on n'est pas.
Ça provient de votre collection personnelle d'abord?
Oui, avant tout. Donc, c'est pas la SBL qui a créé la collection, c'est vraiment l'inverse qui a généré la création.
Vous y avez mis votre cœur et votre collection.
Oui, voilà. Maintenant, la collection appartient pas à la SBL en tant que telle. Nos collections restent disponibles pour la SBL, mais n'appartiennent pas à la SBL sur le plan légal. En fait.
Mais... Quand on, par exemple, on vous parle de vieilles consoles, de vieux flippers, en tout cas de machines, et quand on vous parle après d'émulation, on vous parle de tout ce qu'il y a moyen de faire sans les machines, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui se perd ou qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être particulièrement conservé à ce niveau-là?
En tout cas, en matière de flippers, de plus en plus, on voit émerger ce qu'ils appellent les virtual pinball, donc c'est des flippers à base de dalles, des énormes dalles LCD d'écran. Pour moi,
ah ouais,
ça n'a aucun intérêt. Je vois vraiment pas. Pour moi, c'est.
Moi, je savais même pas que ça se faisait. Tiens, ouais.
Plus que jamais, là, pour moi, c'est le côté chouette, c'est l'objet.
Parce que toi,
c'est
je pense mécanique. Que t'es plus flipper, non? Toi,
c'est ouais, pas
toi
moi, qui. Moi, je suis vraiment bien amateur de ce genre de machine.
Ouais, j'avoue que. C'est dommage qu'on n'en trouve plus dans les cafés et il n'y a plus vraiment moyen de jouer sur des flippers.
Mais à l'heure actuelle, à Bruxelles, il doit rester 6-7 cafés où on peut jouer aux flippers encore comme à l'ancienne, on va dire, en payant sa shop et sa partie.
Et votre patrimoine au niveau de la SBL, c'est quoi plus ou moins? Vous avez quoi en magasin quand on fait des expositions, vous pouvez couvrir plus ou moins tout ou...
Bon, on a de, pas mal de choses maintenant, c'est certain qu'on n'a pas tout, c'est énorme. Disons qu'en grosse machine, donc machine de, on va dire de café de Luna Park, on a dans des états vraiment très divers, on a plus d'une centaine de machines.
Ouais, c'est pas mal déjà.
C'est
déjà
ouais, c'est une pas mal. Hein.
Ouais, et en jeu, je dirais qu'on doit clairement dépasser 2000 titres différents.
D'accord. Est-ce que vous êtes sur Bruxelles? Vous avez un local pour la SBL ou comment ça se passe?
Mais vous faites bien d'en parler. On n'a pas de locaux. On aimerait bien. Ça,
ah, vous en voulez un.
Voilà,
ah,
vous bon, qui là, écoutez non, ce podcast.
Voilà, voilà pourquoi ils sont là justement.
Voilà. Mais c'était un peu ma question. Est-ce que vous êtes reconnu par l'État belge? Est-ce que vous avez des subsides de façon à pouvoir tenir? Parce que je me souviens avoir entendu parler de vos équivalents en France où effectivement, ne serait-ce même la conservation. Des objets coûtaient cher parce que il fallait les entreposer, etc. Et que c'est pas si simple que ça dans des bonnes conditions pour pas que ça rouille, pour pas que ça s'abîme. Et puis il fallait aussi avoir tout le matériel, beaucoup plus de matériel que nécessaire pour pouvoir réparer les machines en fait.
Oui, évidemment. Enfin, là, je pense que tu fais référence, à mon avis, à Emo5, qui est l'association
qui est une des plus grosses en France,
de référence, même en Europe, c'est vraiment une des toutes grosses références. Alors eux, ils fonctionnent justement avec des partenariats communaux, on va dire. Donc c'est vraiment des échanges, en échange d'expositions, de prêts de matériel, on leur prête des locaux. Et en effet, je crois qu'ils ont plusieurs centaines de mètres carrés uniquement.
Mais vous avez, vous quand vous sortez pour faire une expo, parce que j'imagine que vous avez quand même une bonne activité au niveau expo, vous avez, là vous avez de quoi pouvoir fournir, même sans, avec le stockage que vous avez actuellement, vous pouvez directement sortir tout ou...
Non.
Ça doit rester limité.
Non, il y a des machines auxquelles on n'a pas accès parce qu'elles sont, c'est vraiment des stockages système D. Des...
Ouais.
Ça va jusqu'au garage de la grand-mère d'un copain, des trucs, des trucs bien foireux qui sont pas toujours hyper efficaces, quoi.
Ouais.
Et là, comme la SBL est en train petit à petit de créer sa propre collection justement qui appartient à la SBL et donc qui est directement accessible, ce qui est l'idéal. Il y a un vrai problème de place. Et de...
Quel est l'intérêt d'être en SBL justement pour collectionner des jeux ou des consoles ou des machines?
Mais nous, l'objectif, donc en tant qu'ASBL, notre objectif c'est non seulement collectionner, mais ça c'est à la rigueur, c'est pas le plus important. C'est nous, on voulait faire la promotion de tout ça en fait. Donc quand on a créé l'association, c'était le but premier, c'était de montrer aux gens et de faire jouer les gens finalement.
Faire découvrir aussi.
Parce que le but final justement, c'est quoi? C'est de faire la promotion du rétro gaming ou c'est plutôt d'avoir des expos, un site permanent ou un musée permanent? C'est quoi vraiment le but final, le rêve du rétro gamer que vous êtes? C'est quoi?
Mais tout ça va de pair. Donc effectivement, le but, c'est de ne pas laisser traîner toutes ces machines qui forment une sorte de patrimoine. D'un certain média. Et donc le but, oui, c'est d'en faire la promotion. Et effectivement, le meilleur moyen, ce serait d'avoir un local fixe où les gens pourraient s'essayer à des machines qui, l'air de rien, ont été des étapes vers ce qui se fait actuellement. Donc ne fût-ce qu'en matière d'ordinateur, par exemple, nous, on a une certaine affection pour les prémices de l'informatique et pour toute la mouvance des micro-ordinateurs qui ont existé avant les PC et qui ont un intérêt, mais qui sont forcément un peu désuets au niveau de la technique, etc., mais qui est intéressant de pouvoir montrer, de pouvoir montrer à un public qui découvrirait que, avant d'en arriver au PC qu'on a maintenant, on est passé par plein d'étapes nous, il se fait que...
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour ou l'autre un musée, on va dire, on pourrait jouer, essayer ces machines ou pas? Sur Bruxelles, par exemple, un musée permanent.
Oui, nous, ça, clairement, ça nous ferait plaisir. Ça existe dans d'autres pays.
Mm-hmm.
Et
les freins aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Vous avez un catalogue monstrueux de machines. Pourquoi c'est pas possible? Ou pourquoi vous en êtes au stade...
C'est un problème de demande ou c'est parce que...
C'est un problème, ouais, c'est ça. Quel est le problème, en fait, le frein principal?
Je pense que déjà, il reste quand même toujours certains a priori sur le jeu vidéo. Puis d'une autre part, c'est sûr que ça reste quelque chose de relativement récent de considérer le jeu vidéo comme une vraie culture, comme quelque chose de réellement important à préserver. C'est un peu toutes sortes de choses. Après, les budgets des villes ne sont pas illimités. Il y a sûrement d'autres priorités aux yeux des gens que de d'injecter de l'argent dans des vieux jeux vidéo.
C'est si par exemple, enfin ici on parle à des gens qui sont normalement déjà un peu ouverts, en général à ce qu'est le rétro gaming et à ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes, tout ça. Imaginons qu'ils soient intéressés, ça leur parle et comment ils peuvent vous aider, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous acceptez des dons? Que vous êtes ouvert à des nouveaux membres?
Oui, bien sûr, c'est un des deux autres aspects qui pose le plus problème pour l'instant, c'est le problème de place et le problème au niveau du nombre de membres que constitue l'association. Mmh. Parce qu'évidemment, faire des gros événements, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc,
on est
voilà.
tous bénévoles en fait dans l'association, donc forcément c'est du temps qu'on essaye de trouver sur notre emploi du temps, mais plus on sera et plus on pourra bien faire les choses. On demandait pourquoi est-ce qu'on peut pas encore maintenant être un musée. Tout simplement aussi, un détail de base, c'est que ça prend du temps administrativement de faire les démarches auprès de la ville, auprès des communes, auprès de tous les pouvoirs qui pourraient éventuellement donner des subsides.
Prendre des décisions.
On veut que ce soit public, donc on fait les choses comme il faut, on va dire, mais ça prend du temps de toujours de faire toutes ces démarches. Donc plus on sera de membres, oui, clairement... Mmh.
J'imagine, mais de toute façon, vous avez un site hein, où on peut déjà retrouver de l'info sur comment vous contacter.
Ah,
un
peu, ça c'est cool.
Bah oui, hein, donc c'est www.retroludix.be, c'est ça hein.
Voilà, c'est bien ça, ouais.
Et je pense qu'on peut déjà au moins avoir une idée de ce que vous faites. Et vous avez un dossier de presse qui est disponible aussi, je pense.
Qui n'est pas sur le site, qui est disponible à la demande, que nous on diffuse
aux personnes qui seraient intéressées pour venir.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres ou pas du tout?
On est sur les deux. Retroludix.
Retroludix, bah voilà. Au moins on vous retrouvera là-dessus aussi. on nous retrouve parce que voilà, on est sur un podcast audio, mais bon, l'image compte aussi. On retrouve des photos, etc., de toutes vos stocks et des machines. Enfin, est-ce qu'on peut un petit peu se rincer l'œil là-dessus ou pas?
Non, pas trop.
On se rincer l'œil, on dirait un vieux porno. Là.
Ah ouais. Attends, ouais. Ça s'appelle le gear porn, c'est ça, hein. C'est le porno du matos audio, donc il pourrait y avoir du rétro gaming porn. Pourquoi pas.
En matière de photo, il y a essentiel.
On regarderait, hein, non, vous, ce genre de truc. Bon, bien. Moi, j'ai une petite question, parce que les autres sont silencieux, ils voient les 15 minutes qui passent, on va pas niquer Luc. Est-ce que vous avez des questions, Damien?
Quelle est la prochaine activité que vous allez faire, prochaine expo? Où est-ce qu'on peut voir finalement ce matériel?
La Médinasia ou pas?
Non, sans doute pas, mais on sera très prochainement, enfin du moins, un tournoi de flipper qui s'organise à Lutte, qui compte pour le classement mondial des joueurs de flipper.
Ah, il y a un classement mondial!
Peut-être un prochain sujet dans le podcast de Le Carnivore. Ouais.
Ça existe. Et puis, fin de l'année, mais ça reste à préciser au niveau... Enfin, en gros, je sais pas si on peut en parler.
On peut en parler.
Allez-y. Il vous reste deux petites minutes, là.
En exclusivité mondiale.
Il y aura une chouette exposition sur Charleroi. Voilà.
Vous pouvez sur le site, sur le Facebook.
Ça va arriver, mais en fait, c'est pas officialisé de leur côté, mais en fait, ils vont faire une biennale du jeu vidéo.
C'est quoi une biennale?
Une quinzaine du jeu vidéo, excusez-moi.
Ah oui, d'accord.
Deux semaines à propos du jeu, et nous, on sera un peu leur. On fera une expo permanente sur place pour servir de lien entre les autres
acteurs. Bien. C'est quoi le but de venir dans un podcast finalement, à part trouver une salle?
Vous faire plaisir déjà.
Ah, c'est gentil, merci. C'est bien cool. Je pense pas qu'on ait abordé vraiment le rétro gaming comme ça auparavant.
Disons que j'avoue m'être fait extrêmement plaisir en les invitant aussi, parce que moi, en tant que bon passionné, ça me fait plaisir d'essayer de trouver les manières de les aider aussi, parce que c'est pour moi une manière aussi de faire connaître à ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer à des trucs, ou de connaître aussi d'où viennent certaines choses, tout un patrimoine dont ils sont les fiers défenseurs. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique, ça vaut la peine de les aider.
Il y a pas mal, pour conclure, avant la dernière question de Damien, il y avait pas mal d'activités sur le speedrun, etc. en ligne. On a vu des associations réunir des fonds avec le speedrun, etc. Est-ce que c'est vous tendez vers là également, ou c'est vraiment dans la conservation et dans la promotion? Je les ai vus, j'ai dit speedrun, ils se sont regardés, ils se sont dit, ah merde, non. Est-ce que vous êtes plutôt fanat justement de l'exploitation de tous ces jeux rétro pour ce genre de choses, ou est-ce que vous suivez la scène un petit peu ou pas du tout? Vous êtes vraiment dans la conservation et la promo du matériel?
Après, tu nous demandes, nous, en tant qu'ASBL, ou enfin en tant que personne, je ne sais pas ce que c'est un speedrun. Donc,
je crois que je comprends.
On touche une corde sensible.
Après, on fait dans le tout public à fond, donc non, a priori.
D'accord.
C'est des truc de hardcore gamer, etc. Nous, c'est pas notre public cible. Le plus dans le...
D'accord. Juste comme ça, pour précision, si des auditeurs se posent la question, et si tu ne sais pas, le speedrun, c'est donc de finir le plus rapidement possible des sets de jeux, comme, je sais pas moi, Donkey Kong sur Game Boy, essayer de le finir le plus vite possible, avec ou pas de technique informatique sur le côté, donc speedrun classique ou le speedrun assisté.
Ou le TAS.
Ouais, ou le speedrun assisté, donc voilà, une vraie communauté autour de ça.
Qui se fait sur émulateur, celui-là.
Qui se fait aussi sur émulateur. Damien, pour finir.
Oui, ben, en fait, moi, je viens de faire l'acquisition d'une petite tablette, et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de vieux jeux qui commencent à être disponibles sur ces tablettes, alors que ça soit iPad, Android ou Windows. Et donc, on peut se remettre à jouer à des vieux jeux. Qu'est-ce que vous en pensez exactement de ce revival? Parce que, bon, quelque part, c'est du recyclage, mais vous en pensez quoi?
Moi, je suis plutôt favorable à ce genre de truc. Enfin, l'émulation, ça ne me pose pas vraiment un souci. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on aime bien les objets aussi. Mais voilà, et malheureusement, quelque part, avec cette mode, il y a aussi une réelle inflation sur le prix de certains
jeux. Ça, c'est vrai, en brocante notamment.
Et donc, ça peut être un chouette moyen de jouer à des titres auxquels on ne peut pas jouer à cause du prix. Si le prix est un frein, c'est un chouette moyen de pouvoir découvrir des titres qui sont de toute façon plus en vente.
Qui est des choses introuvables.
Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a atteint les 15 minutes. Bon, on les dépasse de quelques secondes, mais c'est pas grave. Donc, résumons, la SBL Retro Ludix, qu'on retrouve sur retroludix.be, sur Facebook et Twitter aussi, en faisant une petite recherche consacrée à tout l'univers et au patrimoine du rétro gaming en Belgique. Vous êtes de Bruxelles? Plus ou moins de Bruxelles, voilà. Mais en tout cas, c'est bien belge. On vous invite à aller les voir, à les découvrir, et puis peut-être à suivre aussi les futurs événements qui feront, on espère du moins, Luc, tu me contredis si je me trompe, mais qui vont grandir et que vous allez devenir des références du milieu ou que vous,
oui,
l'autre, on vous verra entre quatre murs bien solides avec vos centaines de machines.
Et qu'on fera un podcast dans le musée.
Voilà,
du rétro gaming.
Un podcast dans le musée.
Parce avec
que
plaisir.
Vous vous souviendrez de nous. Merci beaucoup, les amis, et puis bonne continuation.
Merci.
Merci à vous.
Alors moi, je vais d'abord vous parler des Pixies. Les Pixies qui sont de retour depuis... ça fait 22 ans qu'ils n'ont pas sorti un album. Et là, ils nous sortent un EP.
C'est quoi un EP ?
Un EP, c'est un petit album. En gros, c'est une petite démo. C'est un petit album. Ils avaient fait Common Pilgrim à leur début, qui était le premier EP qu'ils ont sorti. Mm-hmm. Et là, après 22 ans d'absence, ils nous ressortent quelque chose. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est les Pixies ? Est-ce qu'on retrouve la flamme du début ? On va voir ça. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas les Pixies, en gros, c'est quand même, ça arrive, tu sais, les petits jeunes, etc.
Where is my mind?
Oui, alors ils ont connu Where is my mind à travers le film Fight Club, en gros. Mais c'est comme ça que beaucoup ont connu les Pixies. Mais avant, dans les années, fin des années 80, début 90, en gros, c'était le rock alternatif américain, le groupe de rock qui a influencé énormément d'autres groupes comme notamment Nirvana, et Kurt Cobain a d'ailleurs annoncé qu'il avait voulu faire à la manière des Pixies. Le groupe s'est séparé en 93,
ouais.
Et donc ils avaient sorti juste 4 albums de 88 à 91, et donc là de nouveau ils arrivent avec un nouvel EP, 4 morceaux après un premier single qu'ils ont sorti qui était Backboy, un très très bon morceau, dont j'ai fait une petite chronique sur l'œil carnivore. Et c'est un très chouette morceau. Et là, ils arrivent avec un EP en vente, alors que Backboy est disponible gratuitement en téléchargement.
Qu'est-ce qu'on écoute là d'ailleurs ?
Alors là, on écoute Andrew Queen. Andrew Queen, c'est le premier morceau de cet EP. C'est un bon morceau. De toute façon, moi j'adore Frank Black, qui est le leader des Pixies, et c'est un bon morceau, mais il sonne pas trop Pixies, il sonne Frank Black. C'est clair que là on a du Frank Black derrière,
parce qu'il faut peut-être que tu dises que Frank Black a fait d'autres albums après.
Tout à fait, oui. Il a continué une carrière solo, et tous les membres du groupe ont continué. Après on a un deuxième morceau que je vais vous faire écouter là à l'instant, qui s'appelle Another Toe, qui d'ailleurs, je viens de le dire. Comment dire, c'est le moins bon des quatre. Et c'est clair qu'il ne sonne absolument pas Pixies. Il sonne Frank Black solo. Pas forcément le meilleur Frank Black d'ailleurs que j'apprécie.
T'as raison.
Mais clairement, c'est le moins bon des quatre. Un peu décevant. Maintenant, ça reste un bon morceau et il est assez efficace et assez dynamique. Et en fait, pris tout seul, si c'était un autre groupe, on se dirait à eux, c'est un chouette morceau, quoi. Voilà. Le troisième morceau, ça s'appelle Indie Cindy. Et il y a un clip. Alors, c'est le morceau qui passe. C'est un clip qui est disponible sur YouTube. Le clip est pas terrible. Le morceau est pas mal. Et là, déjà, on reconnaît plus du Pixies derrière, c'est-à-dire ces moments calmes et ces riffs bien rageants et bien rageurs qui succèdent. Voilà. Là, on commence. Voilà, on est beaucoup plus dans du Pixies, on est beaucoup plus dans ce qu'on pouvait entendre sur notamment l'album Bossa Nova, etc. quoi. Voilà. Et puis, ça termine par un quatrième morceau qui s'appelle What Goes Boom. Et là, franchement...
Vas-y, DJ.
Boom. Et là, franchement, ça marche bien. C'est un bon morceau, bien dynamique, bien, qui arrache bien. Et si l'album est comme ça, ça présage que du bon. Voilà, là on est déjà plus dans du... Voilà. Alors... Bah oui, de toute façon, c'est eux qui ont influencé la vague grunge qui a suivi après, hein. C'est clair, c'était les précurseurs. Alors en gros, c'était moins bon que Back Boy, le petit single qu'ils ont sorti avant, mais ça reste du bon boulot. Il manque en fait, ce qui manque à cette EP, il manque un morceau vraiment accrocheur et un truc où on a envie d'y revenir et à réécouter. Les morceaux marchent bien, mais tout seul, voilà quoi. Sur les quatre, il y a deux morceaux qui sonnent bien Pixies, mais bon, si on se souvient des phases B des Pixies, il n'y avait pas toujours du son Pixies sur ces phases B, donc voilà. Est-ce qu'il y a un véritable album qui va suivre? On ne sait pas, mais Frank Black l'a annoncé, donc normalement oui. Mais bon, on est voilà. Mais en tout cas, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Et donc, est-ce le vrai retour des Pixies? Un dernier tout petit truc, un coup de gueule. Ils font une tournée. Et notamment, ils font deux dates à Bruxelles. Les deux dates se sont vendues en, je sais pas, même pas 5 minutes.
Oui, c'est vrai, j'avais lu ça, c'est vrai.
C'est dégueulasse. Bah, je veux dire, non, mais c'est dégueulasse.
Toi, t'en as pas eu.
Je trouve ça. Non, mais c'est vraiment problématique parce que des fans, je veux dire, 5 minutes, comment tu peux être.
Moi, j'ai eu sur SCDC, j'en ai eu.
Bah, t'en as eu, ouais, non, mais c'est le problème.
C'est la technologie, maintenant, tu mets un petit rappel, machin, ouais. T'envoies un SMS et t'as tes places.
Pour 30 euros de plus, t'en as sur eBay, hein, des places pour les Big Six.
Ouais.
Bah, je vais regarder.
T'as des sous, toi, non,
si t'es vraiment passionné.
Bah, t'es pété de fric, toi.
T'as plein de tout, maintenant.
C'est ça. Non, mais clairement, et le pire, c'est que c'est vraiment les places à Bruxelles qui sont vendues aussi vite. À Paris, c'était disponible, etc.
C'est
à l'ancienne Belgique.
Ah bon?
L'AB.
Ah ouais.
Mais ils sont doués à l'AB pour la réservation de place, pour booker des trucs, etc.
Ils sont doués pour choper des bons artistes.
En même temps, l'ancienne Belgique, c'est pas immense.
Mais non, c'est ça le problème, c'est que c'est pas immense. Mais en même temps, ça présage d'un très bon concert. Parce que. Et pour avoir testé Frank Black et les Pixies en concert, mais Frank Black, c'est carré et ça tient la route et ça vaut le coup, quoi.
Bon, les copains, les Pixies, Seb, t'es fan?
Ou pas? Moi, j'ai toujours préféré Sonic Youth et Nirvana.
Ah, bienvenue au club. En fait, moi je méconnais malheureusement les Pixies, mais ça me donne envie d'écouter.
Kurt Cobain a dit qu'il s'inspirait des Pixies pour écrire ce morceau, donc voilà, point barre.
Et des Beatles, il a dit ça aussi, des Beatles.
Il était fan de Beatles. D'accord. Mais Beatles, Pixies, faut savoir aussi que, comment il s'appelle, le leader de Radiohead a refusé qu'il passe en première partie parce que, en gros, c'était comme si les Beatles passaient avant eux, quoi. Donc voilà.
Je pense que il y a surtout que ces groupes, en fait, au final, ont des styles vraiment très différents.
Oui.
On peut pas vraiment dire que ce soit. Enfin, c'est du grunge, mais c'est pas dans le même délire.
Clairement. Mais fais-nous un peu péter la toute dernière que tu as mise, là, celle qui envoyait un peu. Histoire de conclure un peu.
Non, mais les Pixies ont quand même écrit l'histoire de ce genre de mouvement. Voilà, faut pas déconner non plus. Même s'ils sont différents, ça reste quand même une espèce de racine, quoi.
Ouais.
Sonic, t'es pas obligé de les aimer, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont inventé pas mal de trucs.
Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas. Je disais juste que je pense que Sonic Youth c'est plus vieux.
C'est un peu le débat.
En âge, c'est une question d'avoir inventé des trucs ou pas.
Après, en dehors de ça, moi la question que je me pose, c'est on s'est l'acheté sur internet l'album.
Alors tout à fait, oui, c'est en vente à 4 euros.
sur leur site à eux.
Sur leur site à eux. Franchement, c'est quatre bons morceaux. Évidemment, parce vous pouvez les trouver sur YouTube, etc. Parce que maintenant tout le monde l'a diffusé, etc. Mais franchement, c'est sympa. Vous pouvez les avoir en très bonne qualité. Donc, allez-y, ça vaut le coup. 4 euros, c'est rien. Et c'est quand même quatre bons morceaux. Pour moi, de toute façon, Frank Black reste un des meilleurs créateurs de morceaux rock. Voilà, compositeur de morceaux rock.
On va s'écouter encore un petit 30 secondes gratuit là.
Ouais.
Allez, on enchaîne.
Allez.
On va dépasser les 15 minutes.
Alors, je viens de vous parler des petits lutins et maintenant je vais vous parler d'un vampire. D'un vampire et notamment d'un roman qui s'appelle L'Éternel de Johann Svarr. Johann Svarr, je pense que vous devez connaître quand même.
On en a parlé, mais je ne me rappelle plus. Donc tu peux résumer.
Johann Svarr, c'est un dessinateur et un scénariste de bande dessinée.
Un culte, Sergio.
Joe Svarr.
Johann Svarr.
C'est Joe Svarr.
Et c'est un réalisateur de films aussi, d'ailleurs. Et c'est surtout un artiste très très prolifique. Il écrit dans tous les sens, il produit, peut-être un peu trop d'ailleurs au goût de certains, mais de manière générale, il est très très prolifique. Ses œuvres majeures en BD, c'est Le chat du rabbin, que beaucoup de connaissent, mine de rien, parce que voilà, c'est une très bonne BD. Il a aussi été créateur de la série Donjon avec Lewis Ranheim. Là-dessus, évidemment, il y a aussi Manuel Arsenet ou Boulet qui ont participé à Donjon, très chouette série, sympatoche. Au niveau des films, il a fait Gainsbourg, Vie héroïque, que j'ai pas vu. Je sais pas si quelqu'un autour de la table l'a vu, mais voilà, bon.
Très bon.
Luc l'a vu et de loin il nous dit que c'est très bon. Et il a fait évidemment l'adaptation du Chat du Rabbin en animation. Alors il a quand même eu le César du meilleur film pour Gainsbourg et le César du meilleur film d'animation pour le Chat du Rabbin. Donc bon, voilà.
C'est un génie.
Il a une reconnaissance.
En fait.
Alors je sais pas, certains, il a des gros détracteurs, mais c'est vraiment un touche-à-tout et il part dans tous les sens. Ça me fait penser un peu à Astier quelque part ou des choses dans ce genre-là. C'est des gens qui sont capables d'aller un peu dans tous les styles et d'être très très bons, quoi. Alors, L'Éternel, c'est son premier roman, véritable roman, parce qu'il a écrit des petits trucs pour les enfants, mais c'est son premier véritable roman. Alors, synopsis, et je vais juste vous donner la base, c'est en 1917, Première Guerre mondiale, le front russe, et il y a Jonas et son frère Cain qui sont des officiers dans une troupe de Cosaques. Et en gros, Jonas, qui est le droit, le sensible des deux frères, et qui souffre de l'éloignement de sa bien-aimée Yelena, trouve la mort au moment d'une bataille contre un régiment allemand. Bon, faut savoir qu'il se planquait, etc. Bon, voilà, c'était pas forcément très glorieux, mais au moment où il s'est rendu compte que ses hommes allaient mourir, il a décidé de charger. Son frère Cain a décidé qu'il s'était foutu et qu'il s'est barré et il s'est marié avec Yelena, d'ailleurs.
Yelena.
Résultat des courses, Jonas meurt et se réveille en vampire. Et se réveillant en vampire, il décide d'aller retrouver sa bonne-aimée. Mais alors évidemment, ça va poser plein de soucis. Alors bon, j'arrête là le synopsis et la description de l'histoire. C'est un des grands intérêts du bouquin de lire le scénario parce que c'est vraiment très surprenant et on part dans tous les sens. Maintenant, j'ai pris un très grand plaisir à découvrir cette genèse du vampire juif. Parce que bon, il est juif évidemment. Johann Svarr étant juif, il raconte pas mal d'histoires. Bah, le chat du rabbin, c'était déjà pas mal ça. Mais il mélange ça avec l'esprit russe et on se retrouve effectivement un espèce de vampire un peu à la Woody Allen qui se pose des états d'âme et qui est ballotté entre son libre arbitre et son instinct de survie. Donc en gros il doit manger pour survivre, mais en même temps il a pas envie, donc il essaye les animaux, les machins, etc. Moi ça, en tout cas, c'est assez drôle et il essaye de justifier sa propre existence parce qu'il sait même pas comment il s'est retrouvé dans cet état là on retrouve vraiment très bien l'univers de Svarr. C'est ça qui est assez frappant, c'est-à-dire que si vous avez lu ces BD, vous allez vraiment avoir l'impression de voir ces personnages dessinés en face de vous et qui vont jouer les scènes. Et c'est assez frappant. On est très loin du Dracula de Bram Stoker, c'est pas du tout la même ambiance. On est vraiment beaucoup plus dans un univers qui est assez drôle, presque burtonien. Hein, Tim Burton, et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu Dark Shadow.
T'as aimé ou pas?
Alors, C'est rigolo, mais c'est pas assez fou. Et c'est justement ça que, quand je fais la comparaison des deux, c'est j'aurais aimé en fait que Tim Burton prenne le scénario de Sphar et fasse le film, parce que c'est ça devient beaucoup plus fou. Par exemple, j'aurais aimé que Johnny Depp parte avec la psy parce qu'il a besoin de régler ses problèmes et que finalement, voilà, et que ça parte dans toute autre histoire. c'est très drôle, ça part vraiment dans tous les sens, c'est bien écrit. La fin du roman se passe à notre époque, justement.
Tu spoil pas, là, au moins.
Non, je spoil pas, parce que c'est tellement farfelu et fouillu et dans tous les sens qu'il n'y a pas de souci. On y rencontre Lovecraft. Comme
que
personnage.
C'est qui ?
Lovecraft, H.P. Lovecraft, c'est un des grands maîtres de l'horreur qui a vécu dans les années 20 et qui a écrit notamment L'Appel de Cthulhu.
D'accord.
Voilà.
À googler.
Lovecraft, Lovecraft l'écrivain ou Lovecraft et tous ses délires avec
Non, Lovecraft l'écrivain.
Donc l'homme, quoi.
L'homme qu'on retrouve, mais à notre époque, professeur d'université. Mais bon, lisez le bouquin, vous comprendrez pourquoi. Il y a bien quelques longueurs, mais franchement, c'est super agréable. Alors, en gros, je conseille aux amateurs de Johannes Sphar, ça c'est clair, parce que de toute façon, déjà, eux vont a priori aimer le livre. Je conseille aux amateurs de Tim Burton, parce que quelque part, il y a cette espèce de foisonnement et presque d'esthétique qui sont assez proches dans ces deux univers. Et alors, au final, aussi les films de les fans de Woody Allen, ou parce qu'il y a vraiment ce côté-là du petit personnage qui arrête pas de se poser des questions sur lui-même et de se dire mais est-ce que etc et à se regarder et voilà. Et franchement, j'ai pris un vrai plaisir. C'est un bon roman. Il y a des gens, évidemment c'est du Sphar, donc il y a des gens qui vont pas aimer, mais je trouve que de manière générale c'est vraiment j'ai pris un vrai plaisir à lire. Et c'est agréable, ça change de c'est quoi déjà les Twilight et autres trucs.
Oula, Twilight, attention.
Bon, alors est-ce que ça donne envie, les copains? Matt, est-ce que ça te donne envie de le voir?
Oui, je veux bien lire un bouquin de je voudrais bien lire un bouquin de Johannes Sphar, donc de Joy Star, pardon. Ouais, à mon avis j'irai regarder à la Fnac, si vous attendrez qu'il soit en poche, et puis
L'instant en édition brochée, évidemment, parce
c'est
qu'il
du
est
roman
pas...
ouais, c'est ça, c'est voilà, pour l'instant.
Mais il devrait bientôt sortir en livre de poche et là voilà, il est chez Albin Michel.
Et Luc, qu'est-ce qu'il en pense?
Moi perso, je suis pas hyper versé dans le vampirisme et dans les histoires comme ça, mais connaissant plus les BD, surtout les donjons, la série des donjons, si je m'y retrouve là-dedans, je pourrais m'y retrouver dans le roman, je crois.
Oui, on retrouve le mandragore, on retrouve un loup-garou, on retrouve Lovecraft, on retrouve...
En tout cas, je connais bien qu'ils avaient pas là.
Oui, je pensais exactement la même chose, je pense que tu peux lui offrir, je pense que ça lui fera plaisir.
Eh bien voilà, un petit descriptif de L'Éternel de Johannes Sphar, disponible aux éditions Albin Michel. Donc broché, c'est quoi? C'est les gros, c'est ça? C'est les gros bouquins bien lourds, à 20 euros, 25 euros?
Ouais, 25 euros, quelque chose comme ça.
Bien voilà.
Mais bon, bientôt en livre de poche, et puis voilà.
Bien. Eh bien, allez voir ça, et puis je suppose qu'il y aura aussi un petit peu plus sur le...
Ah oui, dernière actu que je ne peux pas vérifier, que j'ai lu sur un seul site. Alors attention, est-ce info ou intox? Il paraît que Johannes Sphar va faire une adaptation en série pour Canal+ de ce roman. Mais je n'ai pas eu de confirmation là-dessus, c'est une seule info qui est balancée comme ça. Je demande à voir, mais je ne vois difficilement comment ça peut être traduit. C'est tellement écrit, je ne sais pas. Exactement.
Allez, L'Éternel de Johannes Sphar, allez voir, googlez, cherchez sur le blog également de Le Carnivore, il y a plus d'infos. Merci beaucoup, Damien. Alors, Darby, tu viens nous parler encore de trucs urbains.
Bien sûr.
De trucs urbains dans Le Carnivore. Tu vas nous parler pas de musique. Tu es un mec urbain, voilà. Tu vas nous parler de l'art de rue, soit le graffiti, et ça s'intitule de l'art de rue à la galerie d'art.
Bien évidemment, je vais mettre aujourd'hui dans ce podcast en lumière le graffiti. Hein, le graffiti, ça fait un peu peur, mais il faut pas avoir peur. On va parler de ce mouvement qui, on va pas parler du graffiti ancien parce que ça existe depuis pas mal de siècles. On va parler du graffiti new-yorkais de base qui a vu le jour vers dans les années 70, on va dire, avec des jeunes qui étaient dans les quartiers, qui n'avaient pas forcément d'identité, qui étaient liés à leur sort, ils n'avaient pas de masse d'activités à faire. Ils sont mis à écrire sur les murs, pour deux raisons. Pour un, se faire connaître dans leur quartier. Voilà, par exemple, t'as Damien. Damien est là. Il a 15 ans. Ouais. Il décide de se faire connaître dans son quartier. Alors il prend, il part acheter des bonbonnes, ou bien il vole les bonbonnes de son papa dans le garage. Hein, voilà, il avait pas forcément les moyens avant. Ouais. Il part, il commence à taguer. Il se trouve d'abord un surnom parce que tu vas pas mettre Damien parce que c'est cramé un peu. Si ton père te voit dans la rue et il voit ton nom partout dans la rue, il va te frapper.
Ouais, Dams. Voilà.
Voilà, tu t'appelles Dams. Dams One, on va dire Dams One. Et tu commences à taguer Dams One partout dans la rue. Et petit à petit, tu te fais connaître. Ben, par les autres graffeurs, ah oui, il y a Adam Swan qui cartonne pas mal, et du coup, tu crées ta propre identité. Et donc, ça va naître comme ça, le graffiti. Et puis, ça va voyager jusqu'en France, dans les années 80, disons 4 pour être plus précis, 82-83, avec pas mal d'une nouvelle génération de graffeurs parisiens, comme par exemple les 93 NTM, mais bien avant, il y avait encore Bando, B-A-N-D-O, un véritable artiste, les City K, les BBC, Joe Star, hein, on en parlait tout à l'heure, mais Joe Star,
voilà, Joe Star
était vraiment un graffeur très très actif.
Avant de faire de la BD.
Voilà, bien sûr. Était vraiment un graffeur très très actif dans les années 80.
Là, tu vas perdre les gens quand même. Faut préciser que c'était Joe Star. Hein.
Ouais, Joe Star.
Quoi, non.
À ne pas confondre, ne pas confondre, parce que Joe Star a écrit aussi un livre. Mais bon, soit. Il y avait aussi Rockin' Squat d'Assassin. Rockin' Squat qui est le frère de Vincent Cassel, que vous connaissez tous, je pense. Vincent Cassel qui
Assassin,
est.
Assassin, moi j'adorais Assassin.
Voilà, voilà. Franchement, c'était vraiment. C'était vraiment les légendes. Joe Star sort de ce corps. C'était vraiment les légendes du hip-hop dans les années 80. Il y avait aussi Motu, un anglais qui avait immigré à Paris et qui faisait pas mal parler de lui, qui était véritablement un artiste né. En Belgique, on n'a rien envié aux Français ni aux Américains. On aura des crews comme CNN, BCP, DB, RAB, King Kool Shake, un mec qui est vraiment... je vous invite à aller voir sur le net qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est vraiment un mec super talentueux. Nino, HMI, etc. etc. Et le grand
question, Derby. Oui. Tu vois, quand tu prends le train, souvent, tu vois...
Après, à la fin, moi aussi j'en ai des questions comme ça.
Moi je peux les poser, vous c'est après. C'est, donc quand tu prends le train, t'as souvent les mêmes tags partout. Tu
l'oiseau,
vois,
l'oiseau, c'est qui l'oiseau, bordel de cul?
Bah, l'oiseau ou l'autre, là, il y a un tag, tu vois, un écrit quoi, Faro ou tu vois.
Oui, mais après, aujourd'hui quand tu prends le train, c'est plus des artistes vandales. Allez, comment dire
c'est pas parce que les graffeurs, c'est pas des vandales.
Non, c'est pas tous des vandales. C'est en fait, c'est pas légal. Tu pars le soir, tu graves ton nom, et puis voilà. Donc quand tu prends le train, t'as plusieurs noms en fait, t'as plusieurs places. Des confirmés et des non confirmés. Donc il y en a vraiment des centaines et des centaines. Parfois même, c'est même des étrangers qui viennent de Pologne, de France, d'Italie, qui font le tour de l'Europe pour marquer leur nom dans plusieurs territoires. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des noms assez bizarres en prenant le train. Mais je vous invite aussi à regarder ça parce que c'est assez artistique. Donc je continue avec... avec
j'ai entendu qu'il a complètement marché à parler à côté du micro pour dire artistique. Ouais, c'est les graphes.
Ah non.
Ouais, d'accord, donc en fait, ouais.
Bien sûr. Allez, on enchaîne. Donc
il a pas osé le dire droit dans le micro, tu vois.
Après, on repart aux États-Unis avec le graffiti. Donc, à partir du moment où, par exemple, Dams One se fait connaître dans son quartier, il y a un moment où le graffiti va monter en niveau. Donc, il y aura des gens qui vont venir aider ce mouvement. Il y aura par exemple Kettering qui était un artiste assez populaire dans les années 70, années 80 et tout, qui va mettre en avant les artistes, les graffeurs. Il va par exemple mettre en avant Basquiat, qu'on connaît tous, Jean-Michel Basquiat, qui va cartonner aux États-Unis. Et tout d'un coup, le graffiti va changer. Ça va passer du truc vandal, comme tu dis. Sous-estimé. Il y avait beaucoup de gens qui disaient comme toi que c'était pas de l'art, que c'était pas artistique du tout, que c'était des bandits, que c'était des voyous, voilà, ça allait pas durer 2 ans, c'était
juste un mouvement.
Voilà, des racailles. Et les gens vont découvrir, les gens d'une classe sociale élevée vont découvrir que ces gens qui viennent de la rue, en vérité, ce sont des artistes. Et on va miser dessus, on va mettre de l'argent. Donc, du coup, on se retrouve avec les gens qui ont de l'argent, qui vont financer l'art de gens qui viennent de la rue, qui n'ont pas d'argent, et ça va se faire connaître et ça va cartonner. Il y a des tableaux qui vont se vendre à des milliers de dollars. Donc voilà.
C'est Basquiat le début de ce truc-là?
Pas Basquiat, mais il y a plusieurs. Basquiat, c'est un des populaires en tout cas. Quand on cite Basquiat,
c'est un peu Kettering, le premier.
Voilà,
qui a vraiment...
voilà, c'est Kettering qui a vraiment mis ça en avant, mais Basquiat, c'est vraiment le nom. Si tu cites, bah, tout le monde connaît un peu. Après, il y a encore des plus pointus derrière ça. Et en France, ça va aussi continuer, bien évidemment. Il y a des mecs comme Johan qui vont venir faire des expositions. Des étrangers comme Futura 2000 qui va venir faire des expositions en France, et tout d'un coup ça va passer, ça va venir du truc purement street à un truc vraiment un merchandising, à un truc assez économique. Et en Belgique aussi, le CNN, HMI, d'ailleurs que je salue, RAB, Lasbel Tarantino, va commencer à faire des projets un peu plus élaborés, c'est-à-dire des expositions Et si vous voyez, si vous, vous passez du côté de Durand, vous pouvez voir la station qui a été magnifiquement. J'ai eu la chance d'assister aux journées où
où
il travaillait, ce qui est magnifiquement retapé. Mais vraiment en Belgique, on a du talent, quoi. Vraiment, on a du talent. On a vraiment rien à envier aux Américains et aux Français. Et donc voilà, le tag va devenir tout d'un coup assez populaire. Ça va plaire aux gens et ça va plaire aux marques. Alors Adidas va se dire, waouh, la mouvance qui vient de la rue, ça cartonne. Les jeunes aiment ça parce qu'il n'y a pas que les gens du hip-hop. Il y a aussi les skateurs qui adorent ça. Les skateurs sont vraiment des mordus de graffiti. Donc ils vont se dire, il faut qu'on mise dessus. Ils vont engager des graffeurs. Par exemple, le plus connu, Cop2, qui va faire tout le design de Adidas, qui va faire tout le design aussi de Converse, les chaussures Converse. Ils vont retaper, si vous allez aujourd'hui au Foot Locker, vous allez voir pas mal de t-shirts avec des graffitis. Ouais. Que ce soit Nike, Adidas, Reebok, peu importe. En tout cas, le graffiti s'est implanté partout. Il y a des compétitions Red Bull avec du graffiti. On voit le graffiti, Thierry Ardisson, dans On ne peut pas plaire à tout le monde, a fait retaper carrément son studio par des graffeurs parisiens.
J'y arrive. Oui. J'y arrive parce que justement, c'est une idée que j'avais balancée à Matt il y a pas très longtemps. On a un grand mur là, dégueu. On savait pas si le recouvrir de mousse ou si inviter un graffeur, tu vois, pour faire le logo d'IndieWeb, tu vois, en géant avec un truc. Alors, si t'as des contacts d'Arbit, toi qui vient de la rue, mec.
T'inquiète pas pour ça.
Si t'en as un, franchement, on est preneur.
T'inquiète pas pour
ça. On lui paye les bombes.
Et voilà. Et donc, on disait que Thierry Ardisson avait retapé tout son studio avec le graffiti. Et voilà, le graffiti s'est imposé. C'est devenu un art. Et il y a beaucoup de tableaux qui se vendent de plus en plus chers à travers le monde. Tout ça pour dire, voilà, ça commençait de rien du tout et c'est parti. Ça, maintenant, c'est mis en lumière et voilà, tout le monde le connaît, tout le monde respecte en tout cas, parce qu'avant, c'était pas le cas. Dès qu'on disait graffiti, on disait rue, je le répète, j'insiste, on disait rue, vandale, on faisait des accents pour se moquer de ces jeunes-là, mais ces jeunes-là aujourd'hui.
Quels accents de quoi tu parles là? Eh, hey, garçon. Ah, voilà. À qui tu parles là?
Et maintenant, quoi?
Voilà. Hein? Quoi?
Voilà. T'as un très bon imitateur. Hein? Ah, j'adore.
Il est doué. C'est le vrai caraille, quoi. La racaille des podcasts, quoi. C'est lui. C'est
ouais, voilà. Big up à Matt. Et Matt de T.
Donc, l'encouragez pas, l'encouragez.
Et voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment. C'est des jeunes qui ont du talent et ils peuvent petit à petit vivre de leur art. En tout cas, je voulais finir par cette phrase. Je tire mon chapeau aux artistes rebelles qui rendent les lettres plus belles et le monde plus beau. Merci à vous de votre attention.
Oh, wow, magnifique.
On a des questions. Bon, donc Derby, tu me bookes un mec qui sait un petit peu graffer. Hein, on se trouve un arrangement et on fait ce mur là. Parce que ce mur là, il faudrait le taguer. Ce serait pas mal.
Ça serait sympa. Bien
tu vois, tout le mur tag.
Bien sûr.
Tout le mur tag, ouais. Merci beaucoup, Derby. Et on enchaîne avec. Tu reviendras avec de la musique.
Ah oui, mais bien sûr. Hein, je reviens très vite avec la musique. Voilà, comme vous adorez
moi,
ça.
Moi, j'avais une petite question quand même.
Ah oui, vous avez pas de questions.
Ah oui, il y a le
droit de poser des questions.
Il y a 8 minutes.
Bah oui, on a temps un petit
allez-y,
peu.
Déchaîne-toi, Adrien.
Est-ce que quelle est vraiment la différence entre graffiti, tag,
la question
c'est traditionnelle. Au final, bon, moi je connais le monde hip-hop, mais de loin, avec quelques artistes, comme je disais, Assassin par exemple, pour
bien
moi
sûr,
ça a été fondateur, mais
bonne référence.
Voilà, mais c'est clair que je mets pas au même niveau le mec qui va effectivement écrire son nom sur un train de celui qui va nous faire un dessin quelque chose sur Banksy oui par exemple
non mais il y a moins haut que ça il y a des trucs bien
mais même il y a quelques trucs qui sont sympas le mec qui fait un effort même à niveau de la typo on va dire parce que t'as vraiment le mec qui fait sa crade et puis t'as quelqu'un qui va même juste mettre son nom mais qui va le faire de manière
est très très pertinente. Il faut faire une grosse différence entre le graffiti et le tag. Le tag, c'est quoi? Je vais commencer par le tag. Le tag, c'est quoi? C'est une signature. Le tag, c'est assez simple. Tu signes ton nom en 5 secondes, en 10 secondes. Il n'y a pas énormément d'efforts, de style à faire. C'est vraiment vite fait. C'est une signature. C'est comme un para. Voilà, c'est vite fait. Tandis que le graffiti, c'est plus élaboré. Ça veut dire que t'as des lettrages, t'as des contours, t'as du remplissage à faire. Voilà, t'as des couleurs qui sont là aussi. T'as des effets. Tu rajoutes des persos derrière, des espèces de petits personnages. Donc c'est vraiment plus élaboré. Et généralement, les gens préfèrent le graffiti au tag parce que voilà, le tag, voilà, c'est plus dans la rue vite fait bam c'est vandale tandis que le graffiti ça prend c'est vraiment c'est de la cuisine tu le prépares et ça donne quelque chose de beau et ça donne de la couleur
c'est
de
la
donc
vraie
voilà
peinture.
Et voilà c'est vraiment de la vraie peinture et puis au-delà du graffiti il y a vraiment des artistes dont j'ai oublié de parler par exemple en Belgique Bonhomme par exemple c'est un mec lui il fait pas spécialement des tags ou du graffiti mais lui il fait il dessine par exemple des animaux, il est plus parti dans le délire perso qui suivait le graffiti. Il a développé ça, il dessine des oiseaux. Tu peux à l'époque, je me rappelais, vous pouvez voir ça toujours sur YouTube, à la gare de Etterbeek, lorsque vous preniez le train, il avait dessiné une histoire de une vingtaine de chats squelettiques qui couraient comme ça.
Et donc avec la vitesse du train, on avait l'impression d'animation
qui courait. Voilà, ça c'est vraiment des véritables artistes qui viennent du mouvement du graffiti, et ça peut aller dans tous les sens par après. Donc voilà.
Moi j'avais aussi ma question, c'était un peu la même que j'ai un peu la moitié de la réponse, mais moi j'ai des explications assez floues. J'ai connu des mecs qui faisaient des graphes, des mecs qui faisaient des tags, etc. Et t'as, c'est souvent aussi un peu un mélange, parce que en général un graffiti c'est généralement un travail de crew.
Bien sûr.
Et puis ces crews en même temps, bah ils essaient de tenir leur territoire en faisant des tags, parce qu'ils ont pas tout le temps de faire des gros graphes, de faire des énormes trucs, de taper des murs entiers.
Ah oui,
du coup t'as les mecs qui défendent indépendamment tous leur territoire en marquant un peu, en foutant des tags partout pour dire bon ça c'est moi ça, etc. Après ils se mettent ensemble pour faire des graphes. Après t'as aussi des mecs, t'as des bandes qui font pas de graphes, qui sont juste des bandes et qui font juste des tags pour marquer leur territoire, genre je sais pas moi, des groupes de dealers, tu sais, ne fût-ce que dans les cités, les mecs ils taguent pour dire ici t'es chez nous,
dans les Tessis, s'il te plaît, dans les Tessis. Ouais.
Donc t'as plein de, enfin c'est pas noir ou blanc quoi, t'es pas un connard de petit con qui fait que des tags ou bien un grand artiste qui fait des graphes.
Il y en a pour tout le monde. C'est pertinent, c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire, parce que en fait il y a un niveau, ça commence par le vandalisme. Voilà, on a un crew, on est blindé, on va taguer un peu partout, et puis petit à petit on se rend compte qu'on peut faire mieux. Voilà, on va essayer de faire des trucs un peu plus élaborés. Et puis la plupart des artistes aujourd'hui dans le graffiti étaient des vandales au début. Ils ont commencé par l'adrénaline. C'est quoi? C'est sortir dans la rue le soir, t'es tout seul ou bien avec tes potes, t'as des bonbons dans ton sac et tu graffes et t'essaies de pas te faire choper par les gens et par la police. Ça part de là, de cette adrénaline là, de cette passion là, de ce virus, et puis ça se développe un sujet plus artistique par après. Mais après ça prend ça prend des années, et puis voilà quoi.
Est-ce qu'il y a que des gens, on va dire, pour simplifier, les cités, etc., qui font ça, ou est-ce que d'autres artistes ont investi la rue? Parce que
parler des
final,
cités, parler des cités, ça serait un peu, moi je suis pas du tout sectaire, je suis même contre ça, c'est un peu faux. Pourquoi? Parce que dans le graffiti, bien évidemment, ça vient des quartiers de base. Après, ça a été développé, le graffiti a été développé par des gens qui venaient pas de cités, mais qui fréquentaient des gens de cités. Quand on cite par exemple Rockin' Squat venait pas des cités, son père était déjà quelqu'un de célèbre. Il vient d'une bonne famille, mais c'est quelqu'un qui on doit le citer quand on parle de graffiti en France. Kettaring n'a rien à voir avec la rue, mais c'est un mec qui est venu faire exploser le graffiti à New York. Donc en fait, et même en Belgique, même partout, même en France, la plupart des bons graffs, pas mal de bons graffeurs en tout cas, viennent de familles bourgeoises. C'est ça qui est étonnant. Donc c'est un peu ridicule, et c'est de condenser le graffiti. Ah ouais, ça vient de banlieue, ça vient de cité. Non, parce que la plupart des gens qui l'ont fait exploser, c'est des mecs qui viennent de familles bourgeoises et qui ont aidé les gens de cité à le faire développer.
On parle plus de street art à l'heure actuelle.
Voilà, c'est street art. Voilà, ça vient pas de, ça a aucunement. En plus, c'est ça que le hip hop essaie de se lutte contre ça. On vient pas d'un lieu géographique. On vient juste, on partage toujours tous une culture en fait. Donc voilà, c'est ça le plus important. C'est le partage humain, la culture, et voilà, et se faire plaisir, having fun.
Super, merci Darby.
Merci beaucoup Darby, c'était super intéressant. Et n'oublie pas le graffeur pour le studio.
Bien sûr.
Non mais franchement, c'est un projet, on y pensait avec Matt et tout, et on se dit franchement ça peut être génial pour la déco du studio.
C'est cool.
Parce qu'on rajoute pas plein de conneries au mur et ça va être stylé quoi.
Voilà, c'est cool.
Bon allez, Darby, on enchaîne.
Bah on enchaîne.
À bientôt avec un sujet toujours aussi urbain. Hein.
Bah oui, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis.
Et on termine ce premier numéro de la nouvelle saison donc de l'œil carnivore, 7e podcast au total avec du jeu vidéo. Et
mais
Matt
oui
et Sylph.
Mais bien sûr. Mais oui.
Une chronique main dans la main.
Mais c'est nous.
Heureusement qu'ils sont main là dans pour la apporter main. Un peu de culture à ce podcast.
Exactement. Hein. Oui, mais
un peu de fun quoi.
On va parler de quelque chose d'intéressant. On s'est fait chier depuis ça fait 40 minutes. Que...
Bon Matt, tu vas nous parler
d'une actualité hyper chaude les amis. Quelque chose qui vient d'arriver. C'est incroyable. Ça fait 12 ans qu'on l'attendait.
Qu'est-ce que c'est?
L'heure telle des ventes de Diablo 3 va fermer à la sortie de l'extension, c'est-à-dire dans plus ou moins 6 mois, ça a été quand même annoncé bien à l'avance pour quand même un peu lisser le 1, parce que c'était quand même une des fonctions principales, des principales atouts de Diablo 3.
Pour Rissé, Diablo 3.
Mais bon, au début, ils ne le pensaient pas comme ça, mais maintenant, après 2 ans, donc Diablo 3 est sorti il y a 2 ans, on s'est rendu compte que, en tout cas, les développeurs viennent de se rendre compte qu'en fait, ça avait un peu pourri leur jeu, c'est-à-dire qu'en fait,
c'était pas vraiment intéressant d'aller chain kill des monstres dans les niveaux de Diablo 3, vu que en fait il suffisait de foutre 20€ sur ton compte Diablo 3 et puis enfin sur ton compte Battle.net et puis d'aller t'acheter du stuff à l'hôtel des ventes en argent réel. Et puis ça n'avait plus aucun intérêt parce que t'avais tout le stuff que tu voulais en l'achetant et du coup il y avait plus vraiment d'intérêt à jouer. Et je pense personnellement que c'est pour ça qu'ils ont supprimé l'hôtel des ventes, c'est parce que les gens jouaient, réunissaient une somme d'argent conséquente en pièces d'or, donc dans l'argent du jeu, ou en argent réel, en foutant simplement en payant avec leur carte de crédit, s'achetaient le plus gros matos qu'ils pouvaient s'acheter, puis ils arrêtaient de jouer, parce qu'ils n'avaient plus aucun intérêt à jouer, ils avaient déjà le matos le plus puissant du monde. C'était complètement contraire aux objectifs de Diablo 3, et de Diablo 2, parce que c'est un hack and slash, et l'objectif c'est de looter du stuff, pas d'aller l'acheter à l'hôtel des ventes, et de faire ça en 10 minutes. Donc, la grande nouvelle, Blizzard revient sur ses pas, supprime l'hôtel des ventes en argent réel et en pièces d'or du jeu, c'est-à-dire qu'il va plus y en avoir du tout, le retour des canaux et des parties pour faire du troc et de l'échange, de nouveau, bon, le problème de Diablo 2 qui revient dans Diablo 3, qu'est-ce qu'on va faire de nos pièces d'or dans le jeu maintenant qu'elles vont plus servir à s'acheter du stuff sur l'hôtel des ventes. Eh bien, toutes les colles dans le cul, ils n'ont pas de solution. En tout cas, ils n'ont pas donné de réponse. Mais pour équilibrer le problème, parce que le Diablo 3 a quand même été équilibré autour de l'hôtel des ventes, au niveau du loot et des statistiques des équipements, ils ont, et c'est assez rigolo, ils ont inventé le loot 2.0. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont transformer, en tout cas modifier la manière dont le loot apparaît dans le jeu. Donc en gros résumé,
c'est quoi le loot?
Alors looter c'est ramasser, donc quand tu tues un monstre, c'est le monstre va lâcher de l'équipement et tu vas le ramasser. On appelle ce phénomène, ce principe là on appelle le looter un monstre.
D'accord, donc des armes, des armures.
Un loot c'est un butin.
Oui, c'est ça, c'est un butin. Et donc ils vont modifier la façon dont le loot apparaît dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait ils ont simplement décidé de faire du qualitatif au lieu du quantitatif. C'est-à-dire que pour le moment, on loot énormément de choses dont très très peu sont utiles. Et là, on va, avec la sortie de l'extension et l'apparition de leur système de loot 2.0, on va looter beaucoup moins, mais de l'équipement qui est beaucoup plus qualitatif, donc qui sera peut-être beaucoup plus souvent utile. Et on leur vendrait peut-être pas forcément. Donc voilà, ça c'était la grande nouvelle. C'est quand même un gros changement parce que c'est quand même une des fonctionnalités du jeu qui avait été tellement poussée en avant par Blizzard et maintenant ils reviennent tellement en arrière. Donc c'est vraiment, il faut vraiment souligner le fait que c'est vraiment incroyable. Oui,
moi je dois dire que j'ai pas acheté Diablo à cause du loot. C'est-à-dire que pour moi c'était le même genre de système qu'on pouvait retrouver dans WoW où il fallait farmer, donc c'est-à-dire tuer des monstres à la chaîne pendant des heures et des heures et des heures pour réussir à avoir le machin, ou alors effectivement tu l'achetais à l'hôtel des ventes. Ouais. Typiquement moi j'ai envie de jouer à un jeu et de pouvoir aller où je veux sans devoir passer des heures et des heures.
Parce que ça c'est un autre débat. Ici on est dans un débat, c'est on est dans un type de jeu qui est dans un type de jeu vidéo et on va pas trop déborder là-dedans parce que ça on va pas en parler beaucoup trop longtemps, mais c'est le hack and slash. Le hack and slash, c'est quoi? C'est buter des monstres en chaîne. Donc, tu te retrouves souvent avec ton personnage tout seul contre une cinquantaine de monstres. Et pour gagner en puissance, via tes niveaux, forcément, et via le matériel que tu vas ramasser, donc que tu vas looter sur les monstres que tu as tués. Ça, c'est le principe de base du hack and slash. Il n'y en a pas d'autres. C'est dans ça qu'on parle. En dehors de ça, t'as plein d'autres genres de jeux, des RPG, etc. Ici, c'est du hack and slash et c'est
bien. On est bien d'accord, mais le problème est, en fait, alors dans Diablo, c'est moins évident, mais ça te limite pour accéder à certains trucs. C'est ton équipement qui te limite. Et donc, il faut que tu tue des monstres à la chaîne pendant des heures pour pouvoir atteindre ces différents niveaux. Donc c'est ça qui m'énerve.
Bah, en tout cas, c'est un débat.
C'est pas le sujet.
Ouais, c'est pas le sujet. Ça, c'est très compliqué.
Mais c'est un débat qui peut être ouvert.
Ce que je voulais dire par là, c'est que si effectivement le loot est plus qualitatif, à ce moment-là, peut-être que je me mettrai à Diablo.
Ouais. Oh, c'est possible. Alors, en tout cas, tu dois voir parce qu'il y a plein d'autres trucs qui ont été mis en place justement pour diminuer l'impression de répétitivité.
Mais donc, il y a une chanson sur ça, I Believe I Can Slash.
Donc c'est vraiment un grand retour en arrière de Blizzard sur ce jeu-là, une grosse nouveauté. Et c'était surtout aussi le fait qu'il y avait de l'argent réel qui est rentré en compte dans ce système-là. Et je voulais juste vous poser une question avant de passer au sujet de Sylph. C'était, est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose de virtuel sur Internet? Est-ce que vous avez déjà dépensé de l'argent pour des pixels, ou en tout cas pour une ligne de code?
Ouais.
Oui, moi aussi.
Ouais.
Alors, Sylph, t'as acheté quoi?
Oh, je crois que j'ai dû dépenser 300€ sur Guild Wars 2, un truc comme ça.
Oh mon dieu. Yeah. Sergio, t'as acheté des trucs virtuels?
Au-delà de tous les abonnements, machin et autres, à la WoW et autres, League of Legends, les skins déjà, juste pour habiller mon perso différemment, j'ai craqué des sous que j'ai retransformé après. Il y en a d'autres.
Guild Wars 2 aussi, mais là c'était plus effectivement pour acheter quelques goodies, machin, etc., du coffre et autres.
Mais encore, on parle pas des DLC.
Luc, tu cherches.
Ni des films des boules.
J'ai un gros sentiment de culpabilité quand je fais ça et ça me limite. Si je claque 10 euros, je me sens déjà coupable.
Et donc, mais t'as claqué quand même 10 euros dans quelque chose?
Je crois que c'est 10 euros sur genre 5 ans. Quoi.
Et dans quoi?
Principalement du MMO, je crois. Ouais.
Et Darby?
Et moi pas, je suis.
Jamais?
Je connais pas le net.
Il a pas 10 euros.
Je sais pas.
Voilà, donc bon, c'était. Bon, on a fait le tour de la table. Tout le monde a un peu mis de l'argent dans des trucs, dans des pixels, des trucs que vous n'aurez jamais dans les mains, des trucs que vous aurez sur votre PC et sur Internet. Mais donc,
et voilà, pas pour toujours. J'ai payé pour des jeux que j'ai pas en main, que c'est contre des gros tas de pixels aussi.
C'est mais ça, mais c'est pas la même chose parce que là, t'es encore quand même. C'est pas le même débat.
En même temps, il y a quelque chose qui est délicat autour de ça. Moi, c'est sur Guild Wars 2, j'ai mis du fric, c'est parce que j'estimais que le travail des développeurs était suffisant.
Ça, c'est juste la grosse excuse du geek qui a mis 300 balles.
Non, que dalle. Ça, c'est vraiment le cas. Et donné que sur World of Warcraft, j'ai dépensé 700 euros en 8 ans.
Ouais, en abonnement,
etc. Tu vois, et encore, pas que les abonnements. Moi, je pense vraiment légitimement, que je disais d'ailleurs à Damien, sur Guild Wars 2, ça faisait partie d'une espèce de forme d'abonnement. Tu vois, parce qu'il faut bien que les développeurs ils aient du fric qui rentre à part la sortie du jeu, tu vois. Ouais, et si le jeu tu l'aimes bien et que tu joues tout le temps, je trouve que c'est quelque chose qui peut être légitime.
C'est vrai que c'est une logique qui se tient et c'est la logique de la majorité
pareil
des gens
pour les free to play. Dans les free to play, tu joues un jeu qui est gratuit. Donc, mettre un peu de pognon dedans, même si le jeu tu l'aimes bien, tout du moins, ça me paraît être une démarche entre guillemets logique. Les jeux vidéo, c'est pas que du piratage, tu vois.
Non. C'est une façon de voir les choses. Hein. Moi, personnellement.
Maintenant, Diablo 3, c'était très différent. C'était les joueurs qui vendaient les trucs et Blizzard qui prenait un pourcentage dessus.
Mais ils prenaient quand même un pourcentage dessus. Et le principe, c'était vis-à-vis de toi-même, tu dépensais quand même de l'argent pour un objet qui n'existe pas. C'était surtout ça le principe de ce que je voulais mettre en exergue, disons.
À propos d'objets qui n'existent pas, je vais passer sur Rome Total War 2.
Ouh, oh là là,
on a entendu des belles dessus.
Quel enchaînement, mes amis.
Quel enchaînement, magnifique.
J'applaudis.
Qui est un jeu que j'aime bien, étonnamment, mais qui a été horriblement critiqué, qui s'est fait descendre dans les critiques un peu partout, surtout par les joueurs, moins par les testeurs. Pour la belle et bonne raison, c'est un jeu qui est sorti pas fini, comme d'habitude, mais alors dans le genre pas fini, c'était assez spectaculaire.
Merci le marketing, quoi.
Bah oui, il va y avoir des actionnaires derrière qui disent, il faut sortir le jeu, là, on a plus le temps, là, il faut avoir de la rentabilité. Le souci, c'est que le jeu, dans le fond, est très bon, mais il a des défauts désastreux. Et donc, je dirais qu'à toutes les personnes qui entendent ce podcast, je leur conseille d'attendre une solde Steam pour l'acheter. Même si je trouve le jeu très sympa. En tout cas, j'y joue en multi, etc. Il est très chouette. Il est extrêmement beau, mais il est pas fini. Il est pas optimisé. Il est buggé. L'IA déconne. Enfin, c'est une catastrophe. Mais le jeu, dans le fond, est bon. Donc, attendez quelques mois et puis voilà. Par contre, je vais renchaîner avec un autre jeu qui, lui, m'a beaucoup plu et qui a beaucoup fait rigoler mon frère quand il m'a vu y jouer parce que j'y jouais.
Et qui a eu des très bonnes critiques.
C'est Rayman Legend. Je déteste les Rayman à l'origine. Ça m'a fait casser un pad et péter un écran de télévision.
En plus, il suit à Rayman Origine.
Mais je parle des vieux Rayman qui étaient sur Super NES.
Ouais, les tout premiers.
Quoi, là,
sur PlayStation, non?
Sur PlayStation, ouais, PlayStation, c'est ça. Ce jeu m'a horripilé. Je me rappelle, j'ai tapé une crise de nerfs. Enfin bref, ça m'arrivait sur quelques jeux. Final Fantasy X, je crois, ou Final Fantasy XI, je sais plus. Enfin, des jeux qui m'ont fait tuer des consoles. Enfin, soit. Celui-ci, suite à Rayman Origine, que j'avais découvert chez Damien.
Ouais. Très chouette jeu aussi, d'ailleurs.
Sur ta GameCube,
Wii,
c'est ça. On s'est retrouvé un peu bourré en fin de soirée à y jouer et on a laissé complètement tomber les autres pour y jouer et ça m'avait vraiment surpris parce que j'ai horreur des jeux de plateforme initialement. Et donc je voulais faire un gros coup de cœur à un jeu là parce que ça faisait très long. Enfin, je me rappelle pas d'un jeu de plateforme qui m'ait plu à part celui-là en fait.
Moi je lui mettrais plutôt un coup de bite. Un coup de cœur, ça fait trop.
Un coup de
ça
bite.
Fait gay.
Le problème, c'est que Rayman, je sais pas s'il a de cul vu qu'il a pas de bras ni de jambes.
C'est vrai.
Mais non,
par
c'est.
Par contre, il attrape des cœurs.
Par contre, il attrape des cœurs. Donc,
super
cool.
Rayman,
moi, j'avais quelques précisions sur le jeu tout de même. Rayman Legends, apparemment, il y a toute une partie. Donc, si le principe est assez proche de Mario 64, finalement, il y a des tableaux, si on peut dire ça comme ça. On se balade de monde en monde.
Tu as un hub global, en fait, qui est sous forme de 5-6 tableaux, en fait, dans lequel tu peux rentrer dans les tableaux. Et ainsi, après, t'as des sous-niveaux. Enfin bon, ouais. Je propose aux joueurs de.
Des univers, si on peut dire ça comme
c'est
ça.
C'est des univers avec des niveaux de difficulté donnés, etc. Le jeu est agréable, surtout sur Wii, en fait, qui est la Wii U.
La Wii U.
La fameuse Wii U que tout le monde pense que c'est une Wii améliorée.
On m'a dit justement que le gamepad était super bien exploité.
En fait, c'est un jeu qui fait pour à la base. Et qui d'ailleurs, il me semble que sur Vita, c'est un très bon jeu aussi à cause de ça. Parce qu'en fait, il a un petit défaut sur les PC et les consoles. C'est de. Bon, ça m'a parfois fait chier, mais c'est pas très grave. C'est qu'en fait, il y a un personnage additionnel qui vient t'aider de temps en temps et qui vient manger par exemple des éléments de décor pour que tu passes ainsi de suite et en fait sur la Xbox 360 le PC et la PlayStation 3 tu ne le diriges pas alors que sur la Wii tu peux et un de mes meilleurs amis qui l'a acheté sur Wii U et c'est sa petite fille qui joue avec lui et qui fait ces trucs là. C'est un jeu qui est très convivial aussi, je crois qu'on peut y jouer à 4. Ouais. Et franchement, c'est un jeu, ça fait partie de ces jeux, j'entendais une question dernièrement dans une émission de gens qui disaient « Ah oui, est-ce que c'est des jeux qu'on peut jouer avec notre copine ?» Ben oui.
Ouais. C'est des jeux qu'on peut jouer. Je confirme, c'est marrant, ça. On a fait une partie le week-end dernier avec Andrea.
Voilà, c'est un jeu qui est agréable, qui est fun, qui est extrêmement beau, qui est... franchement, il y a des trucs artistiquement, je trouve ça fantastique.
On m'a dit que ouais, graphiquement, c'est une belle claque.
Il est magnifique. Je ne sais plus comment s'appelle le concepteur. Je suis vraiment désolé à tous les gens qui écoutent ce podcast parce que c'est,
bon,
c'est un génie. Mais bon, c'est... voilà.
Mais en fait, une petite équipe en France en plus. Hein, c'est à Montpellier et c'est une toute petite équipe.
Bah, ouais, c'est Ubisoft Montpellier. Ouais.
D'ailleurs, il faut.
Mais le gars qui gère ça est connu
du moteur qu'ils utilisent pour Rayman et qui a été exploité pour deux autres jeux, le UbiArt.
Oui, alors justement, il y a deux autres jeux qui vont sortir bientôt, il me semble aussi. Un
Child of Light et Valiant Heart.
Valiant Heart qui est juste génial, incroyable, quoi. Qui a un style de dessin à la Tardy qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui raconte l'histoire d'un chien, qui rencontre des gens. Enfin, ça a l'air d'être. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans les festivals d'animation, les choses comme ça au niveau du traitement. Donc c'est très bien. Et Rayman, pareil, il y a des moments qui sont. C'est intelligent, je trouve, comme jeu par moment, tu vois. C'est pas juste du réflexe. Ça fait appel au réflexe, mais c'est très varié, en plus, c'est tout ça.
Oui, et puis, en tout cas, dans l'origine, et je suppose que c'est la même chose dans celui-là, il y a vraiment des ambiances dans certains niveaux qui sont...
Ah, les familles d'univers, hein.
Il est plus réussi, je trouve, graphiquement que l'origine. Il est plus coloré, il est plus vivant, il y a plus de choses. C'est vraiment un très très chouette jeu, et surtout, celui-là, il est fini.
Ouais. Tiens, prends ça, mais c'est mon collier. Tiens, prends. Non, mais pour finir sur Origins, sachez-le également, il y a apparemment les 40 ou les 50 niveaux, les meilleurs niveaux d'Origins,
ouais,
qui ont été remasterisés et remis dans le jeu. Donc, en termes de contenu, vous allez avoir.
Il y a de quoi faire. Moi, j'ai joué une bonne trentaine d'heures. Et j'ai pas
donc, ça y est, on a un deuxième jeu sur Wii U alors.
C'est quoi le premier?
Zombie U.
Non, tu oublies Pikmin.
Pikmin, du créateur.
Ah non, il y a le remake HD de Zelda aussi.
Ouais, il commence à avoir des jeux intéressants sur la Wii U. Au final, il y en a tout autant que sur les autres consoles si t'as un PC.
Et je pense que c'est la seule console qui fait du gameplay asynchrone aussi. Hein, donc c'est-à-dire d'avoir une deuxième manette qui fait un autre jeu que le principal.
Parce qu'après, juste pour faire le petit débat entre deux, quand t'as un PC, en fait, t'as une quantité de jeux cross-platform qui sort, donc tu t'en fous en fait d'avoir une console. Et quand tu regardes sur les consoles, les vraies exclusivités, il y en a finalement très peu. Alors oui, la Wii U, il y a pas les autres jeux qui sur les autres, mais au final, les exclus sont tout aussi, il y en a tout autant et elles sont tout aussi intéressantes.
Oui, mais ça reste Nintendo, donc ils ont leurs exclus de toute façon.
Ah, hein. C'est toujours QQ et machin, mais bon.
Par contre, c'est chouette de l'avoir sorti sur PC, celui-là, en fait. Hein.
Oui.
Est-ce qu'il est mieux sur PC finalement ?
Non, il est mieux sur Wii U.
Il est mieux sur Wii U. Bien voilà, on a fait le tour de la question. En 13 minutes et 50 secondes, bravo, 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 bravo. Je pense qu'on peut tous vous applaudir parce que vous avez quand même
2 minutes pour vous dire d'aller acheter l'extension Diablo 3 dans 6 mois parce que genre ça va quand même renouveler le jeu de l'acheter là.
Et oui, oui, oui. Et vous aurez remarqué qu'on n'aura pas évoqué GTA 5, c'est pas plus mal. On en parlera plus tard.
Ah, tu l'as fait !
On en parlera un petit peu plus tard. Bon, et bien voilà qui nous mène à la fin de ce premier podcast nouvelle saison. Espérons-le, Damien, qu'on ait du web très bientôt pour rendre ce podcast interactif avec la vidéo, la totale.
Au revoir.
Mais on a 5 minutes pour dire au revoir et tout ce qu'il faut. Bon, bah faisons un petit tour pour peut-être les premiers, les nouveaux qui nous écoutent aussi. Le blog, il est là avant tout, donc c'est bien le podcast du portail L'œil carnivore sur lequel on développe les sujets un petit peu plus.
Voilà, et on poste quelques sujets sur le site lui-même. Il y a aussi quelques posts qui sont directement sur le Facebook, donc abonnez-vous au Facebook, ça vaut le coup. Yes. Il n'y a pas forcément exactement la même actualité sur l'un et sur l'autre. Et sinon, il y a le Twitter, évidemment.
Voilà. Il ne faut pas hésiter à interagir aussi, réagissez, commentez. Facebook ou sur le site en commentaire, eh bien ça vaut toujours la peine. On est toujours là pour répondre, du moins Damien et l'équipe de l'œil carnivore.
Pour les blancs de forte poitrine, je répondrai à vos mails personnels.
Voilà, Seb ne répond que à ça. Donc on attend vos photos.
Petite chose aussi, un petit appel, c'est que si vous avez envie de faire partager vos goûts, vos coups de cœur, etc., etc.
Comme nous.
Voilà, comme nous. N'hésitez pas à nous contacter.
Comme Rayman.
On cherche des collaborateurs pour les sites internet.
Et des collaboratrices. Surtout celles qui travaillent à Boulevard Anspach.
Mais c'est vrai, mais tous les trucs là, toutes les filles un peu girly.
Geek.
Les filles un peu girly, évidemment.
Blondes. Pour ça, non,
il y a des sujets féminins qui peuvent venir dans le carnivore.
C'est bien aussi.
On aime bien se tracer l'œil, hein, le carnivore.
Oui, par contre, c'est fini les histoires de J-pop japonais. Hein, ça, je le dis tout de suite. Il n'en est plus question.
C'est celle qui a fait le plus de vues, hein, je te rappelle.
Non, c'est Game of Thrones qui a fait le plus de vues.
Ok, bien. Pour retrouver également quelques photos en attendant d'avoir de la vidéo, etc., rendez-vous sur bien le site du studio ici. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus. IndieWebsRecordings.com. Première promo pour ce studio.
Ouais, merci.
Le site commence à prendre forme. Tiens, et puis voilà, il y aura quelques petites photos. On est aussi sur Instagram et les autres. Oui.
Récemment, il y a eu un bundle Indie Games.
Oui. On en a. Ouais, moi j'en ai parlé ailleurs. Mais
Origin,
c'est vrai.
Un bundle Origin qui est sorti sur la plateforme Humble Bundle.
Humble Bundle.
Et bah, évidemment, pour le prix, je ne me suis pas privé, mais comme beaucoup, j'avais déjà pas mal de clés qui étaient déjà, que j'avais déjà achetées avec mes propres brousoufs.
Ouais.
Et donc, j'ai des clés en trop pour des jeux que j'ai déjà. Et donc, avis.
Petite idée, Damien l'avait évoqué. Vas-y, Luc.
Bah non, mais c'est Damien. C'est
bon, allez, Damien, vas-y, lance ta bonne idée. Le premier truc interactif de ce podcast.
Ouais, le premier truc interactif. Au début, on avait un générique.
Qu'on va repasser à la fin.
Pas. Voilà, exactement. Et donc, il y a des extraits. Et bah voilà, il y a une, deux, on verra exactement. Mais au moins une clé à gagner pour trois clés. On a trois clés.
Donc trois gagnants.
Pour ceux qui reconnaîtront le plus d'extraits.
Inclus dans le générique, finalement.
Inclus dans le générique.
Voilà.
Évidemment,
est-ce que les chansons également comptent
la musique de fond,
d'accord.
Évidemment.
Donc, le plus d'éléments possible.
Il y a une clé en plus pour, pour celui qui trouve tout. La musique.
Mais on est généreux avec
voilà. Sachant que l'extrait journal.
C'est que des jeux de merde.
Il faut juste trouver.
Pour
l'extrait du journal, il faut juste trouver de quoi ça parle. Parce qu'évidemment, je ne vous demande pas de trouver qui parle derrière. De quelle chaîne.
D'accord. D'où ça vient.
Alors, d'où on répond, vous pouvez répondre à info@carnivore.com
ouais, ou sur le Facebook
ou dans les commentaires
ouais,
ou sur le Facebook.
Du Facebook de toute façon au moment où on postera le podcast on reparlera de toute façon
bien
on
voilà
le concours
un petit concours voilà.
Alors dans les commentaires du Facebook ça sera très bien et le premier qui trouve tout a gagné
voilà
les origines et les Steam donc il y en a pour tous les goûts.
Allez on clôture ce 7e numéro rappelons-le début de saison donc on va essayer de revenir toutes les 2 semaines. A priori, c'est ça Damien,
oula,
que je ne me trompe.
Non, tous les mois.
Tous les mois, une fois par mois, pardon. 2 semaines, c'était avant. Une fois par mois, la troupe de l'œil carnivore se réunit pour faire un petit podcast. Voilà, donc on espère que pour la prochaine, je l'espère moi principalement, on aura du web. Et donc on vous invite sur Twitter et autres, mais principalement sur le site du web recordings.
C'est dans un mois, cher. Je pense que tu t'avances un petit peu.
Mais non, ils vont mettre pas
la date est déjà coincée.
Melgaco, mais compagnie. Enfin bref. Voilà, c'est juste une question de choix. Il faut choisir lequel a la meilleure connexion. Bref, on clôture, on enchaîne et puis découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière ce nouveau générique du podcast de l'œil carnivore et remporter
iTunes,
des clés.
On est sur iTunes aussi. Hein.
N'oubliez pas.
Ouais, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles comme disait l'autre.
Allez, générique Sergio.
Ciao, ciao.
Insultez-nous, mais mettez 5 étoiles.
L'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque ?
L'Empire.
Blasphème.
Le monde se divise en 2 catégories.
Bah c'est quoi, Gigawatt ?
Cinéma !
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Les géants américains de l'Internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur.
Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé.
Allons-y, finissons-en !
Ouais, mais au moins, il faut que je sois au lit à 9h30.
Toi ?